La France reconnaît l'État palestinien. Le président de la République Emmanuel Macron s'exprime en ce moment même à la tribune de l'ONU. En réaction, 86 mairies ont hissé le drapeau palestinien pour saluer cette déclaration, une initiative lancée par le Parti socialiste qui est pourtant interdite. Explication dans ce journal. Dans l'actualité en métropole, que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, jour de la disparition de Delphine Jubillard? Le procès de son mari Cédric Jubillard s'est ouvert aux assises. Il clame toujours son innocence. Jeunesse, santé, sécurité, financement. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a organisé hier matin un séminaire avec les communes à la fois. Vous entendrez dans ce journal le président du gouvernement, Alcide Ponga. Une situation toujours incertaine à la province des îles. Mathias Ouaneux présidera une séance publique aujourd'hui, tandis que Jacques Lallier écrit une lettre ouverte aux élus. « Vous bafouez ma liberté d'exercer mes mandats », déclare-t-il. Le sport, Ousmane Dembélé, grand favori pour le Ballon d'Or. L'attaquant du Paris Saint-Germain, âgé de 28 ans, pourrait devenir le sixième Français à obtenir la récompense individuelle ultime du football. Pendant ce temps-là, signalons qu'en Ligue 1, l'OM mène 1-0 au Vélodrome face au PSG. La météo pour aujourd'hui, l'Ifou Marais, l'île des Pins conservent un ciel très chargé et un temps instable. Sur les autres régions, le ciel est souvent nuageux près du relief, alors que de belles éclaircies se maintiennent sur le littoral. Quant aux températures, pour cet après-midi, elles évoluent entre 25 et 29 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, direction New York.
Oui, Emmanuel Macron devant les Nations Unies. Le président de la République est monté au lutrin peu après 6 heures pour l'Assemblée Générale de l'ONU. Cette conférence est co-organisée par la France et l'Arabie Saoudite. Et il y a donc quelques minutes, le président de la République a reconnu l'État de Palestine en même temps que 10 autres pays. Emmanuel Macron qui y voit là un chemin vers la paix.
Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt, pour sauver des vies de la guerre et de la destruction. C'est la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité, de son humanité, de sa dignité. C'est pour cela que nous devons, aujourd'hui, ici même, ouvrir ce chemin de paix, le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Emmanuel Macron salué donc lors de sa prise de parole il y a quelques minutes aux Nations Unies. Pourtant, cette décision est jugée inappropriée à droite et trop faible à l'extrême gauche dans la classe politique française. Elle divise. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Oui, reconnaître l'État de Palestine, c'est un préalable pour la gauche, mais la décision reste insuffisante pour l'insoumis Éric Coquerel.
Il faut que, aussitôt que l'État palestinien est reconnu, ça passe par des sanctions vis-à-vis de l'État d'Israël pour qu'il arrête le génocide en cours à Gaza et l'annexion en cours de la Cisjordanie.
À droite, le Rassemblement national évoque une faute politique de la part d'Emmanuel Macron, coupable selon le parti d'avoir choisi le mauvais moment pour reconnaître l'État palestinien. Écoutez Philippe Ballard, député RN.
Cette faute politique et diplomatique profite bien sûr au Hamas. Dans notre programme, il y a la reconnaissance de deux États. Oui, mais il y a un problème de temporalité. Il ne faut pas oublier qu'il y a 48 otages.
Enfin, chez les Républicains, François-Xavier Bellamy regrette lui aussi le moment choisi par le chef de l'État, alors que des otages sont toujours retenus à Gaza et que le Hamas reste en place.
Ce qui est une faute, c'est de faire que ces conditions qu'il avait lui-même fixées ne soient plus à l'agenda. Cela serait la plus grande faute.
Cette décision est donc loin de faire l'unanimité, surtout que la droite, dans son ensemble, dénonce l'importation du conflit israélo-palestinien en France depuis le 7 octobre.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. La France, qui n'est pas le seul pays à reconnaître un État palestinien à l'occasion de cette Assemblée générale, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, le Portugal ou encore la Belgique franchissent également le pas au grand dam des États-Unis. Pour le président américain Donald Trump, il s'agit d'une récompense pour le Hamas. Même tonalité en Israël. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'exclut pas des représailles. Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.
En effet, certaines d'entre elles pourraient concerner directement la France. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou considère qu'Emmanuel Macron a ouvert la voie, incitant d'autres chefs d'État et de gouvernement occidentaux à reconnaître unilatéralement un État palestinien. Parmi les mesures envisagées, la fermeture du consulat consulat de France à Jérusalem, dont les services s'adressent aux ressortissants français installés dans la capitale israélienne, mais aussi à ceux qui sont établis dans les territoires palestiniens de Cisjordanie. Autre représailles éventuelles, les autorités israéliennes pourraient remettre en cause le statut de l'une des possessions françaises à Jérusalem. On pense notamment au site appelé Tombeau des Rois. Mais c'est la possibilité de l'annexion d'une partie des territoires de Cisjordanie qui a été évoquée avec le plus d'insistance ces derniers jours. L'aile droite de la coalition gouvernementale estime que ce serait la réponse la plus adéquate à la série de reconnaissance d'un État palestinien. Or, la mise en œuvre de cette option risquerait d'entraîner des sanctions économiques de la part de l'Union européenne, ainsi qu'une remise en cause des accords d'Abraham qui avaient permis en 2020 la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. La marge de manœuvre de Benjamin Netanyahu est donc étroite. Le Premier ministre fera connaître la nature de sa réponse dès son retour de Washington la semaine prochaine. Il espère y obtenir l'aval de Donald Trump.
Et pendant ce temps, à l'initiative du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, des maires ont hissé des drapeaux palestiniens sur des mairies en France. Un geste qui accompagne la décision de la France de reconnaître la Palestine, déclare le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Il parle même d'une décision historique. Au total, ce sont 86 mairies qui ont bravé l'interdit du ministère de l'Intérieur de faire flotter ce drapeau, Jean-Baptiste Marty.
Oui, à Nantes, Rennes, Lille, Lyon, mais aussi à Creil et Villiers-Saint-Paul dans l'Oise, le drapeau palestinien a flotté un peu partout en France et plus particulièrement en région parisienne. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, il a été hissé sur les mairies de Bagneux, Gennevilliers ou encore de Nanterre. Point commun à toutes ces municipalités, elles sont dirigées par des élus de gauche, des communistes, des insoumis, mais aussi des socialistes qui ont donc répondu à l'appel de leur premier secrétaire Olivier Faure. Ces mairies ont donc bravé l'interdit. Vendredi dernier, Bruno Retailleau avait demandé aux maires de respecter un principe de neutralité des services publics, auquel cas des poursuites seraient engagées. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé pour la ville de Malakoff dans les Hauts-de-Seine. La ville a été condamnée ce matin par le tribunal administratif de Cergy à 150 euros par jour d'affichage, une décision que l'édile communiste Jacqueline Bellhomme entend contester devant le Conseil d'État. Un bras de fer judiciaire entre préfectures et mairies frondeuses qui pourrait ainsi se poursuivre pendant plusieurs semaines.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Le ministère de l'Intérieur a-t-il raison, selon vous, de s'opposer au pavoisement de drapeaux palestiniens sur les mairies? Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il a tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, 97% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'après la décision du Conseil constitutionnel, l'association Un cœur, une voix doit poursuivre sa démarche et aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir le dégel du corps électoral. Ils ne sont que 3% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 6h passé de 39 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité en Nouvelle-Calédonie et retour notamment sur cet incendie au niveau du plateau de Donny.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Avec Magie, du 1er septembre au 31 octobre, tente de remporter 2 millions de francs en bons d'achat. Achète un paquet de nouilles Magie et si tu as de la chance, tu y trouveras un paquet gagnant. Tu peux aussi jouer gratuitement chez Nestlé NC. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible chez Maître Citrita.
Qui a le droit ?
Patrick Bruel vous donne rendez-vous à l'Arène du Sud le 25 octobre pour son concert époustouflant. Une voix qui réveille les souvenirs, une énergie qui traverse les générations.
Oh, c'était les rendez-vous dans 10 ans.
Patrick Bruel en concert, à un moment rare, vibrant, à vivre absolument le 25 octobre à l'Arène du Sud. Billetterie sur ticketpacific.nc et dans les supermarchés Auchan-Connet, Auteuil et Quai Ferry. Un événement et sa production, producteur d'émotions.
Participez au jeu du ticket d'or avec l'Association pour la surdité. Du 22 au 27 septembre, recevez un rouleau de papier cadeau solidaire chez vos commerçants. Deux tickets d'or sont cachés chez nos partenaires Maloca & Co et Interdis pour gagner une formation en langue des signes française et calédonienne d'une valeur de 30 000 francs. Infos et listes des boutiques sur notre Facebook Association pour la surdité.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Près de 60 hectares partis en fumée lors de l'incendie du plateau de Donny hier. De nombreuses plantes endémiques à la Nouvelle-Calédonie ont d'ailleurs été détruites par les flammes dans cette zone située entre Lafoy, Saraméa et Canala. Léana Colombo.
Oui, pour lutter plus efficacement, le plan hors sec feu de forêt de niveau 2 avait été activé hier matin par le gouvernement, puis a été levé en fin de journée. L'origine du feu est pour le moment inconnue, mais la main de l'homme y est pour quelque chose dans la majorité des cas. Le capitaine Kerleger, chef de corps du SIV, IVM Sud et commandant des opérations de secours, rappelle les bons gestes à adopter.
La vigilance, déjà, le feu, on va pas l'allumer si on n'en a pas le besoin. Si on allume un feu, on s'assure que le foyer va être correctement préparé, c'est-à-dire qu'il soit fait dans un lieu approprié, on nettoie tout le pourtour du foyer, on s'assure d'avoir un point d'eau à proximité et on laisse le feu en surveillance constante. C'est-à-dire qu'on ne part pas en laissant le feu qui brûle et puis on reviendra plus tard ou on s'en va. Le nombre de sinistres qui partent de cette manière-là, un feu doit rester sous surveillance de l'homme, peu importe son usage et voilà.
Il s'agit du premier incendie de grande ampleur depuis le début de l'année qui a nécessité l'activation du plan Orsec feu de forêt de niveau 2. Les pompiers qui ont également été mobilisés avant-hier sur des départs de feu sur Moindou Sud et Tomo.
L'actualité judiciaire et le verdict est attendu dans la journée dans l'affaire de viol qui clôture cette troisième session d'assises de l'année au palais de justice de Nouméa. Les faits remontent à 2009 à Thio. Une dizaine d'individus ont violé une femme dans un contexte d'alcoolisation et de violence contre la victime. Une situation encore incertaine à la province des Îles où la présidence est toujours controversée. Alors qu'une séance publique est convoquée aujourd'hui par Mathias Oineux, Jacques Lallier publie une lettre ouverte dans laquelle il met en garde sur les risques encourus, Léana.
Oui, on sait la situation particulièrement confuse. Jacques Lallier a perdu son mandat de président de la province des Îles après sa condamnation à 2 ans d'inéligibilité. Mais depuis, le Conseil d'État a jugé que cette peine était suspendue. Jacques Lallier a donc été réintégré dans son mandat d'élu du Congrès au mois d'août dernier. Il n'a en revanche toujours pas retrouvé son mandat d'élu de la province des Îles et encore moins son fauteuil de président alors que Mathias Oineux a été élu à la présidence en décembre dernier. Jacques Lallier estime qu'il doit retrouver la présidence et avant une séance publique dont il conteste la convocation. Il met en garde contre les conséquences d'une telle situation. Je cite « En faisant obstruction à ma reprise aux fonctions de membre et président de l'Assemblée de la province des Îles Loyauté, non seulement vous bafouez ma liberté d'exercer librement mes mandats électifs, mais en plus, vous faites peser inutilement un risque contentieux sur tous les actes pris par mon remplaçant à la tête de l'exécutif, mais aussi sur tous ceux qui ont ou qui pourraient être adoptés par le bureau et par l'Assemblée de la province des Îles Loyauté. » Pour lui, ce risque s'étend également à tous les organismes internes et externes dans lesquels il siégeait, dont notamment la SODIL et la présidence de la Commission des Finances. Jacques Lallier qui conteste la légitimité de son successeur et donc de la séance publique qui doit se tenir aujourd'hui.
Ben c'est lui qui a fait la convocation, mais ça fonctionne dans l'illégalité d'abord parce que c'est 4 mois où ils n'ont pas tenu l'Assemblée, alors qu'il faut tenir tous les 2 mois. Et l'exigence de la loi, d'une part, mais aussi parce qu'il aurait pu convoquer une commission plénière, mais il a convoqué une Assemblée, mais c'est pareil, il est en mesure d'attaquer cette convocation parce qu'il n'est pas à sa place. Le Conseil d'État m'a dit de reprendre à partir du 11 parce que c'est la date où j'ai fait le recours, et lui, il a été élu le 27 décembre. Donc normalement, il aurait dû se retirer parce que c'est quelqu'un qui était la démocratie a des faiblesses, et c'est des faiblesses d'individualité et d'individus qui fait qu'on est dans une situation qui risque de bloquer la province aux dépens de la population des îles.
Une lettre ouverte que Jacques Lallier adresse aux élus de la province des îles, mais aussi aux hauts commissaires, aux présidents des conseils d'air de Lifou, Marais et Ouvéa et aux maires de la province des îles.
Et un seul point est inscrit à l'ordre du jour de la séance convoquée par Mathias Oineux. Les conseillers doivent examiner le rapport qui prend acte de la communication et du débat relatif à la vie de la CTC portant sur le contrôle du compte administratif de la province des îles Loyauté. Je le disais en titre, le président du gouvernement a réuni hier les maires de Nouvelle-Calédonie. Ils se sont retrouvés en séminaire toute la journée à la fois. La réunion qui s'est déroulée également en présence du haut-commissaire et des responsables des forces de l'ordre, Léana Colombo.
Cette réunion avait été prévue avant le versement par l'État de la deuxième tranche du PGE de 28 milliards de francs, avec 2,5 milliards fléchés vers les communes. Les maires ont fait part de leurs préoccupations et de leurs questions sur le financement de leur collectivité, mais ils ont aussi parlé santé, sécurité et jeunesse. Sur les problèmes liés à la jeunesse, les participants ont convenu qu'il fallait plus de cohérence entre les collectivités, gouvernement, province, commune, pour aligner les dispositifs et mutualiser les moyens. Et ils ont abordé aussi des questions plus concrètes.
Il y a eu notamment les questions concernant le transport scolaire, cher aux mairies. Et donc, il y a un travail qui doit être fait également par l'équipe de Mme Chamorro et de Gilbert Thuyénon aussi pour cette question. On s'est engagé avec l'ensemble des mairies à clarifier les choses d'ici l'année prochaine pour qu'on puisse savoir qui prend quoi en charge et comment on fait les choses. Parce que ce sont des charges qui sont énormes pour les communes. Mais je dois dire aussi que le gouvernement n'a pas beaucoup de moyens compte tenu de la situation actuelle. Et enfin, concernant la jeunesse et le scolaire, on a également abordé la question épineuse du financement des enseignements privés. Moi, j'ai terminé ce matin sur cette question-là en posant la question à l'ensemble des mairies, au-delà du financement, au-delà de tout ça. C'est de se dire à un moment donné, est-ce qu'on veut continuer à avoir l'enseignement privé en Nouvelle-Calédonie ? Mais ça, il faut être franc.
Cette réunion fait suite à un courrier des maires de La Foy, Farino, Saraméa, Moindou et Bouloupari qui s'inquiètent de la montée des actes de braconnage. C'est pour cela qu'il a été question de sécurité et que le président du gouvernement avait invité les représentants de l'État et des forces de l'ordre.
Le commissariat est venu avec la direction de la police nationale, également avec le général Aouchin des forces de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie pour montrer un peu l'ensemble des dispositifs qui sont déployés par l'État pour maintenir et contenir tous ces phénomènes de délinquance, ces phénomènes déviants. Et voilà, il y a eu une présentation et tout pour que les maires soient rassurés par les forces de l'ordre et notamment le commissaire sur la façon dont ils déploient les choses de façon à prévenir et à éviter à ce qu'il y ait ces déviances.
Lors de ce séminaire, la fermeture de la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris a été évoquée comme une piste d'économie alors que le gouvernement cherche à réduire les charges. Pour ce séminaire, le président du gouvernement était entouré par Isabelle Chamorro, Thierry Santa et Claude Gambet. Gilbert Thuyénon était aussi présent, mais en tant que maire de Canala.
On reparle de santé puisque la FPLS hausse le ton et adresse un courrier à la DAS, à la CAFAT et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La Fédération des professionnels libéraux de santé s'inquiète de l'annulation de la présentation de l'OCEAM. Cet outil permet de fixer chaque année le taux directeur d'évolution des dépenses de santé. La présentation de l'OCEAM prévue il y a 15 jours a été reportée sine die, note la FPLS, qui alerte donc les autorités sanitaires sur la nécessité de fixer une nouvelle date de présentation. La FPLS estime aussi que le calcul de l'OCEAM repose sur des données obsolètes et demande que les professionnels de santé soient concertés. La semaine européenne de la réduction des déchets se déroulera du 22 au 30 novembre prochain. Le thème de cette année, c'est tout simplement les déchets d'équipement électrique et électronique. La labellisation des actions pour la CERD a commencé. Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes en ligne. Écoutez les explications d'Idan Salinas, chargée de mission en économie circulaire à l'ADEME.
C'est une initiative de sensibilisation qui est menée à l'échelle européenne depuis 2009. L'objectif, c'est de promouvoir des actions de réduction des déchets et encourager des pratiques de consommation responsable. Sachant qu'on a un site internet, donc c'est cerd.adem.fr, sur lequel on peut enregistrer des actions. Pour le moment, en Nouvelle-Calédonie, on a une première action, mais on attend, on va dire, en moyenne une centaine chaque année. Il faut se créer un compte sur le site de la CERN et le fait d'enregistrer des actions sur le site nous permet à nous, derrière, d'avoir une idée globale de toutes les actions qui vont se mettre en place sur le territoire. Par la suite, de créer un programme qui sera diffusé dans les médias.
Les inscriptions sur le site sont ouvertes jusqu'au 17 novembre. L'OPT signale une coupure de la fibre optique dans le Nord depuis hier, 15h51. Les services télécom Elia sont donc impactés. Dans le détail, Koumak et Kalagomen ont des problèmes de téléphonie et d'internet mobile. Kalagomen, Koumak, Poumbele, Pouégua, Pouébo font face à des coupures de téléphonie et internet fixe. Les équipes techniques Elia se sont mobilisées pour résoudre le problème. Vos rendez-vous sur notre antenne. L'UNC propose une évolution de sa prépa ingénieur et désormais les étudiants auront un accès privilégié aux 16 écoles du réseau Polytech France. Pour présenter cette innovation, le directeur de Polytech Nice, Sophia Alexandre Caminada, et le directeur des admissions de la même école, Philippe Lorenzini, seront sur le territoire à la fin du mois. Ils tiendront d'ailleurs une conférence publique le 30 septembre à l'UNC. Une évolution de la prépa ingénieur dont nous reparlerons tout à l'heure à 7h30. Nous aurons pour invité Bianca Travin, qui est la responsable pédagogique de la prépa ingénieur à l'UNC, et Sylvian Raffarartigue, le directeur de la communication de l'université. Comment intéresser les jeunes générations aux sciences ? Dans quelques jours débute la fête de la science, dont la vocation est de montrer aux jeunes que les sciences sont partout et pourquoi pas de les intéresser à une carrière scientifique. Les sciences seront donc ce midi au cœur de notre magazine citoyen. Lionel Sabot recevra Michel Bourguet, le directeur de l'IREM, l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques et formateur des enseignements à l'université. Sylvain Tolassi, qui est président de l'ASDEMAT, Fabienne Floret, membre de l'Association calédonienne d'astronomie, et Frédéric Barrière, présidente de la Fédération des sciences. Rendez-vous donc à midi. En attendant, il est 6h passé de 50 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une nouvelle pause avant de voir la suite de l'actualité en métropole et notamment le procès de Cédric Jubilard qui vient de s'ouvrir.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Fais appel à tes collègues préférés et participe au CIPAC Challenge. Du 6 au 20 octobre, participez au plus grand challenge sportif inter-entreprise de Calédonie. Vous avez 15 jours pour bouger et faire un maximum de pas. Chaque jour, un défi sera relevé sur l'application pour gagner encore plus de points. Fais gagner ton équipe, ton entreprise ou même ton association pour remporter un des nombreux lots. Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Facebook CIPAC Challenge. Le CIPAC Challenge, ensemble, on va plus loin.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie vous invite à un rendez-vous autour de la conférence des Nations Unies sur l'océan, tenue à Nice en juin dernier. Mardi 23 septembre de 18h à 20h dans l'hémicycle du 1 boulevard Vauban, venez nombreux échanger avec nos intervenants. Ils partageront avec vous leur retour d'expérience et les enseignements de ces rencontres internationales.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et fin de la première journée d'audience aux assises du Tarn. Cédric Jubilard, soupçonné d'avoir tué sa femme en 2020, dont le corps n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé, a fait face aux questions. Ce plaquiste de 37 ans, incarcéré depuis 2021, s'est montré coopérant. Il a à l'opposé du tableau qui a été dépeint de lui depuis le début de cette affaire. Écoutez les précisions de Charles Lhuillier, le correspondant d'Europe 1 dans le Tarn.
Cédric Jubilard a surpris l'assistance, le public venu en nombre ici à ce procès. Il a volontiers répondu aux questions des avocats de la partie civile, a même été chahuté parfois, mais il est resté calme, posé, avec par moments des réponses qui ont fait rire la salle. Oui, je travaille au noir. Oui, je prenais sur le salaire de Delphine. Oui, je fume 15 joints par jour. Des réponses, et quoi qu'on en pense sur le fond, hein, avec beaucoup d'authenticité, malgré la gravité extrême de ce qui lui est reproché. Une personnalité qui ne surprend pas l'un de ses avocats, maître Laurent Martin.
J'ai l'impression d'être en face d'un homme qui est authentique, qui dit les choses du tac au tac, et une enquêtrice de personnalité qui vous dit « Écoutez, moi, j'ai pas trouvé en face de moi quelqu'un de manipulateur. J'ai quelqu'un qui s'est présenté comme il est. » Nous, on n'est pas surpris, si vous voulez. Vous, vous êtes un peu surpris parce qu'on vous a présenté, enfin, la médiatisation autour de cet homme a fait qu'on a présenté un personnage caricatural. Nous, on n'est pas surpris. Et Cédric Jubilard, il est comme on le connaît.
Alors, est-ce du bluff? C'est ce qu'a demandé Laurent Boguet tout à l'heure. Laurent Boguet, c'est l'avocat des enfants du couple qui a illustré sa question en rappelant que Cédric Jubilard est fan de jeux de stratégie et surtout de poker.
L'audience reprendra donc la nuit prochaine pour nous avec l'enquête de personnalité de Delphine Jubilard, la victime, puis par l'expert psychiatre qui a rencontré l'accusé. Suivra ensuite l'audition des gendarmes. Quant au verdict, il est attendu le 17 octobre prochain. Un hommage rendu à Philippine, un an et deux jours après le meurtre de cette étudiante de Paris-Dauphine par un étranger sous OQTF. Un temps de recueillement a été organisé cette nuit à l'université en présence de sa mère. Ses camarades se souviennent de cette jeune femme de 20 ans et restent choqués par ce qui s'est passé.
On n'oublie pas Philippine, on ne veut plus jamais qu'une jeune fille meure tuée par un homme déjà connu comme étant dangereux. C'est ça vraiment qu'on veut dire et que Philippine restera toujours dans nos mémoires.
C'est très compliqué de revenir tous les jours en voyant l'endroit où il y a eu le meurtre.
Elle avait mon âge, elle aurait pu être mon amie et je suis là pour montrer que bah, on est là et que la génération d'après, on sera encore là et qu'on lâchera pas.
Et une stèle a été érigée à l'université en sa mémoire. Il est 6h54, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on marque une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive avec notamment la cérémonie du Ballon d'Or.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Futur bachelier, bachelier ou déjà titulaire d'un Bac plus 2, tu cherches un diplôme Bac plus 3? Découvre le bachelor de l'École de gestion et de commerce de Nouvelle-Calédonie. Le GC, c'est une formation dynamique, un réseau professionnel solide et des opportunités de carrière avec 100% d'insertion après les études. Viens rencontrer nos étudiants et formateurs. Rendez-vous le samedi 30 août pour nos portes ouvertes dès 9h. Plus d'infos sur www.egc.cci.nc ou au 24 31 40. EGC Business School de Nouvelle-Calédonie, inspirez demain.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Besoin d'idées pour vos prochaines vacances? Où dormir? Où manger? Que faire? Le Salon Échappée Nord vous donne rendez-vous le samedi 27 septembre de 8h à 18h à la Maison des Artisans à Nouville. Rencontrez et échangez avec les acteurs du tourisme de la Destination Nord. Découvrez des activités originales, des hébergements de charme, des bons plans. Et laissez-vous inspirer par une destination riche, authentique et pleine de surprises. Salon Échappée Nord, le samedi 27 septembre à Nouville. Une journée pour réaliser vos rêves et planifier votre prochaine échappée dans le Nord.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et cette fameuse cérémonie du Ballon d'Or, récompense individuelle ultime du football. Annoncé grand favori, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, pourrait succéder à l'Espagnol Rodri. Le Français de 28 ans pourrait ainsi devenir le sixième tricolore à être récompensé après une saison exceptionnelle, Christopher Filhoc.
Oui, avec les victoires en Ligue des Champions, en championnat et en Coupe nationale, au rythme de 33 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ousmane Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle et s'est donné les moyens de devenir le sixième tricolore à décrocher la récompense individuelle suprême du football. Et globalement, le football français soutient Dembélé à l'image de Didier Deschamps.
Il mérite en tous les cas, de par ce qu'il a fait sur toute la saison. Et après qu'il y en ait d'autres qui méritent peut-être, mais lui, peut-être encore plus, parce qu'au-delà de sa performance individuelle, il y a aussi les titres importants qu'il a gagnés.
Mais Dembélé a plusieurs concurrents. On pense notamment au prodige barcelonais Lamine Yamal. Mais le danger pour l'attaquant français peut venir aussi de ses propres coéquipiers, comme le latéral droit marocain Achraf Hakimi. En tout cas, Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, lui, a fait son choix et en chanson.
Et Ousmane Ballon d'Or.
Et pour remettre le glorieux prix, l'organisation aurait choisi un invité de légende, l'ancien parisien Ronaldinho.
Et la cérémonie a débuté à 6h ce matin pour nous au Théâtre du Châtelet à Paris. Pendant ce temps-là, on joue le classico Marseille-Paris au Vélodrome. Il s'agissait du match qui n'a pas pu se jouer hier en raison des conditions météo. Il vient tout juste de se terminer et c'est l'Olympique de Marseille qui s'impose à domicile 1-0 grâce à un but signé Naïef Aguerd. Il a marqué dès la 5e minute de jeu. Pourtant, Paris restait sur une série de 9 matchs sans défaite en championnat contre l'Olympique de Marseille, avec même 20 buts inscrits contre seulement 2 encaissés. C'est donc une défaite 1-0 pour les Parisiens. J'ajoute que l'entraîneur marseillais a été exclu en toute fin de rencontre. Et puis on termine avec le sport sur le territoire et ce projet de construction d'une nouvelle structure d'escalade qui avance, Léana Colombo.
Après les incendies des équipements des grimpeurs à Nouméa et à Dumbéa, la Ligue a dressé les plans d'un futur centre d'escalade qui pourrait voir le jour. C'est un terrain de magenta qui a été choisi non loin de l'ancien mur Bob Dele. Le vice-président de la Ligue, Philippe Boquet, était notre invité pour en parler dans le Mac des Sports hier.
Désormais, c'est tout à fait officiel, hein, puisque le conseil municipal du mois de novembre, du mois de décembre, ainsi que celui du mois de février vont consacrer par des délibérations ces engagements de Madame la maire. Il s'agit du terrain qui est en face de la maison de la gym et en face de l'ancienne structure Bob Dele. J'avais récemment le nouveau directeur technique national qui disait que Brisbane 2032, c'était un objectif et que donc la Nouvelle-Calédonie faisait partie du plan dès lors que la reconstruction était en place et que la Ligue refonctionnait de nouveau. Alors sur la sécurité, sur les budgets, ce sont des budgets qui sont beaucoup plus importants. Il faut avoir un budget de sécurité, c'est-à-dire une enclosure et une surveillance qui est beaucoup plus importante, clairement. Donc, évidemment, le budget n'est plus le même.
Les plans sont déjà aboutis. Murs d'initiation, blocs, vitesse, difficultés. Ce sera un véritable site dédié à l'escalade sous toutes ses formes. Et la partie la plus dure reste la recherche de financement, alors que de nombreuses familles, tout comme les grimpeurs de haut niveau, attendent de retrouver une nouvelle structure d'escalade à Nouméa.
Merci beaucoup, Léana. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et le temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, nous sommes en vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages pour de fortes averses qui persisteront ce matin sur les communes de Yatay et de Thio. Ce matin, le ciel sera très nuageux à couvert avec des averses parfois fortes sur du sud, au sud des Loyautés et au sud-est de la Grande Terre, l'extrême sud également ainsi qu'à l'île des Pins. Sur le sud-ouest, les nuages accompagnés de quelques gouttes laisseront place à quelques éclaircies. Ailleurs, le temps sera bien ensoleillé, en particulier sur le nord-ouest et la pointe nord. Le vent de secteur est pour ce matin, autour des 15 nœuds sur l'extrême sud, le sud déloyauté, 5 à 10 nœuds sur la côte est et la pointe nord. Et sur l'ouest, il soufflera au sud-est autour des 5 à 10 nœuds. Cet après-midi, les Fous-Marais et l'île des Pins conserveront un ciel très chargé avec un temps instable et des averses localement fortes. Sur les autres régions, le ciel sera souvent nuageux près du relief avec quelques ondées, alors que de belles éclaircies se maintiendront sur le littoral. Sur le nord-ouest, le ciel sera peut-être un peu plus chargé avec éventuellement quelques ondées. Le vent, le plus souvent variable fait pour cet après-midi, sur l'extrême sud et jusqu'aux abords de Nouméa et aux loyautés 10 à 15 nœuds, orienté est à est-nord-est. Les températures, elles, pour l'après-midi, 25 à 29 degrés en général.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.